Bonjour à tous. Cette vidéo de vulgarisation a pour but d'expliquer la cinétique des vagues, en particulier comment elles se forment. C'est parti! Une vague est une déformation de la surface d'une étendue liquide, le plus souvent sous l'effet du vent. À l'échelle de la planète, les anticyclones et les dépressions créent de grands mouvements d'air. Ces derniers frottent la surface des océans et provoquent des irrégularités. Au fur et à mesure, le vent s'engouffre dans ces légères ondulations, les renforce, ce qui augmente leur puissance. Autrement dit, le frémissement de l'eau prend de l'ampleur et se transforme en houle sous l'effet du vent. On parle de train de houle. On observe le phénomène d'ondulation sur toutes les étendues d'eau, les océans, les mers, les lacs, les rivières et même les flaques. Les caractéristiques des ondes dépendent principalement de trois facteurs. La force du vent, la durée durant laquelle il souffle et le fetch, c'est-à-dire la distance parcourue par le vent sans obstacle. À ce propos, plus l'étendue d'eau sur laquelle le vent souffle est importante, plus les ondes tendent à se renforcer. C'est pourquoi les vagues en mer sont généralement plus petites que celles des océans. Les ondes ont moins d'espace pour emmagasiner l'énergie du vent. Néanmoins, sous certaines conditions météorologiques, on peut tout de même observer de fortes houles sur des petites étendues d'eau. C'est par exemple le cas en Méditerranée lors de grosses dépressions, voire même sur certains lacs, comme le lac Erie en Amérique. Bref, on peut retenir que les trains d'ondes sont principalement dus au vent, qui les renforce jusqu'au déferlement sur le rivage. Zoomons un peu sur ce point. À l'approche d'une côte, le profil de la houle se courbe au fur et à mesure que la profondeur d'eau diminue. Les ondes s'élèvent jusqu'à basculer vers l'avant et déferler. Concrètement, la vague se brise lorsque sa crête se déplace plus vite que son pied, notamment lorsque le bas de l'onde frotte le fond. Lors du déferlement, l'essentiel de l'énergie de la vague est dissipé en tourbillons et formation de bulles d'air. La forme d'un déferlement au voisinage du rivage dépend essentiellement de la pente des fonds. On distingue trois principaux types de déferlement. Premier cas, le déferlement progressif ou glissant. Il se produit généralement sur les plages à très faible pente. Les vagues commencent à se briser loin du rivage. La crête a un aspect mousseux qui s'accentue lors de la progression en laissant derrière une couche d'écume. Deuxième type, le déferlement plongeant. La vague s'enroule autour d'une poche d'air puis s'écroule en créant une grosse éclaboussure. Il s'agit du type de déferlement prisé par les surfeurs. Il se produit le plus souvent au niveau d'une forte pente. Troisième type, le déferlement frontal ou gonflant. La vague gravit la plage avant que la crête puisse s'enrouler. C'est le cas lorsqu'il y a un changement brutal de profondeur. À ce niveau, on peut noter qu'il existe aussi d'autres types de vagues qui ne sont pas uniquement issues de la houle. Par exemple, les raz-de-marée. Les vagues se forment soit sous l'effet d'une tempête, soit lors d'un mouvement brutal des fonds marins causé par un séisme, une éruption volcanique ou un glissement de terrain. Dans ce cas, on parle de tsunami. Autre type de vague, les mascarées. Il s'agit des vagues qui remontent les fleuves par leur embouchure sous l'effet de la marée montante. Il existe aussi les vagues scélérates. Ces vagues océaniques gigantesques et soudaines s'apparentent à des murs d'eau. Elles surgissent en pleine mer et peuvent causer des dommages importants aux bateaux. Les scientifiques ont encore du mal à expliquer comment elles se forment. À ce propos, il convient d'indiquer que les vagues et la houle sont des phénomènes complexes qui dépendent de multiples autres facteurs comme le relief, les courants ou encore les vents locaux. L'exemple du Cap Horn, réputé pour être l'un des passages les plus dangereux au monde pour la navigation maritime, illustre bien la complexité des phénomènes impliqués dans la formation des vagues. D'une part, la géographie de la région accentue la force des vents dominants à cause d'un effet entonnoir, ce qui renforce localement la houle. Ensuite, des zones peu profondes viennent amplifier la hauteur des ondes. De plus, le vent souffle parfois à contresens des courants marins, ce qui vient creuser les vagues encore plus. La région est aussi le point de rencontre entre les trains de houle venant de l'océan Pacifique et ceux de l'océan Atlantique. Bref, de multiples facteurs viennent influencer localement les caractéristiques des vagues. Bien, avant de conclure, voici 6 informations complémentaires sur les vagues. La hauteur des vagues varie de quelques centimètres à plus de 30 mètres pour les plus hautes. La plus grande hauteur enregistrée par un instrument est de 32 mètres. Lors de la tempête Kirin en février 2011 en Atlantique Nord, les mesures faites par altimétrie satellitaire référencent un maximum de 36 mètres avec une moyenne de hauteur de creux de 20 mètres. Deuxième point, les scientifiques s'appuient sur les modèles physiques pour expliquer avec plus ou moins de précision la mécanique des vagues et de la houle. Par exemple, des chercheurs ont reproduit la cinétique des vagues scélérates dans un bassin. Troisième anecdote, la houle peut prendre des formes étonnantes. Sous certaines conditions, on observe une houle parfaitement rectiligne. Parfois, les ondes se propagent dans des directions différentes. Par exemple, on peut observer des trains de houle perpendiculaires au phare des baleines sur l'île de Ré. On parle de mer gaufrée. Enfin, il arrive que les ondulations soient complètement instables car des trains de houle de sens et directions différentes se rencontrent dans la même zone. Quatrième anecdote, tout comme l'échelle de Beaufort pour qualifier la force du vent, on utilise l'échelle de Douglas pour décrire l'état de la mer. Cette classification repose sur 10 valeurs qui sont fonction de la hauteur de la mer du vent. Cinquième anecdote, il existe des dispositifs pour capter l'énergie de la houle, comme par exemple le mécanisme Pélamis. Dernier point culture, les vagues ne cessent de fasciner l'homme. De nombreuses œuvres les représentent. L'une des plus célèbres est sans doute la grande vague de Kanakawa, réalisée par le peintre japonais Hokusai vers les années 1930. Bref, pour résumer et conclure, on peut retenir qu'une vague est une déformation de la surface d'une étendue d'eau, le plus souvent sous l'effet du vent. Le vent s'engouffre dans les légères ondulations et les renforce jusqu'à ce qu'elles déferlent sur le rivage. Merci pour votre attention. C'était Mr. Fanjo. À très vite.